Histoire, actualité dans la fabrique de l'histoire et en ce vendredi, actualité de la fiction d'histoire, cinéma, romans et bande dessinée. À la toute fin de cette émission de vendredi, nous vous proposons un nouvel épisode de notre série C'était à la Une, dans laquelle nous vous proposons une lecture, aujourd'hui par Hélène Losseur, d'un étrange, d'un amusant ou d'un grand texte de presse tiré du site Retro News de la BNF. Aujourd'hui, la mort de Lord Carnarvon, découvreur de la tombe de Toutankhamon. Quant à notre discussion de ce matin sur la fiction d'histoire, nous avons réuni autour de la table Séverine Attard de la Fabrique de l'Histoire, Isabelle Landonat, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Reims, Caroline Douki, maître de conférence à Paris 8, et Delphine Diaz, maîtresse de conférence à l'Université de Reims. Au programme de ce matin, une bande dessinée Panama Albron de Alex Hinker et de Jacques Goldstein chez Sarbacane qui nous raconte la gloire et la chute d'un boxeur noir de l'entre-deux-guerres, un roman Colombe sous la lune de Laurence Campa chez Stock qui nous raconte de son côté la vie et la difficulté de vivre de soldats de la Première Guerre mondiale dans les tranchées, et enfin un film Confident royal de Stephen Frears qui nous conte l'amitié de la reine Victoria à la fin de sa vie avec un de ses jeunes sujets, indien musulman.
Il rentre clandestinement en Amérique, aux États-Unis, parce qu'il signe un contrat en disant qu'il va revenir à Panama dans un bateau, et tout simplement laisse la valise et tout, et puis il réussit à rentrer clandestinement aux États-Unis. C'est là qu'il commence à véritablement à se former, et puis commence à devenir un phénomène. Et il avait un cycliste assez drôle qui s'appelle Villepontou, qui est un aventurier, qui était un cuisinier, il y avait un restaurant, et qu'il réussit à signer des contrats avec des promoteurs français. Il l'expédie avec deux autres à Paris en 1926, et à partir de ce moment-là, il devient une vedette à Paris.
Vous venez d'entendre une partie de la vie de Panama Albron telle qu'elle a été racontée dans un roman en 1998 par Eduardo Arroyo, et c'est d'une bande dessinée dont nous allons vous parler ce matin. Donc ce Panama Albron, l'énigme de la force d'Alex Hinker et de Jacques Goldstein, qui peut être résumé par les mots-clés que l'on utilise lorsqu'on est un commercial, donc chez Sarbacane, la maison d'édition qui le publie: boxe, homosexualité, racisme, Cocteau, année folle, Joséphine Baker, Pigalle et Harlem. Il y a peut-être d'autres mots-clés à rajouter à cette bande dessinée qui vient tout juste de paraître. Bonjour Séverine Attard. Bonjour à vous Delphine Diaz. Bonjour à vous Isabelle Landonat. Ainsi qu'à vous Caroline Douki. Qu'est-ce que vous avez pensé, Caroline Douki, de cette bande dessinée Panama Albron, donc au scénario et au dessin Alex Hinker, et au scénario, l'aidant, Jacques Goldstein, qui a travaillé également pour la télévision. Donc une histoire assez incroyable d'un personnage, mais tout compte fait qui s'inscrit dans une sorte de sous-genre de la littérature de boxe, à savoir la gloire et la chute d'un boxeur. C'est souvent raconté, que ça soit par Raging Bull de Scorsese ou par tout un tas d'autres moyens en l'occurrence.
Moi j'ai trouvé que cette bande dessinée met en récit, en dessin, un sujet qui est passionnant avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de virtuosité, et ça n'est vraiment pas facile de proposer de nouveau un bon récit dans un domaine qui est particulièrement couru, donc comme vous l'avez rappelé, puisque un nombre incroyable d'écrivains a écrit sur la boxe, Jack London, Hemingway, Dashiell Hammett, Nelson Algren, Norman Mailer, Bob Schulberg, et même une femme, Joyce Carol Oates, donc Cocteau aussi a écrit, et bon, le nombre de films sur la boxe est aussi innombrable. Et là, on a une bande dessinée qui, par sa manière de conduire le récit, de le mettre en image, réussit vraiment à nous captiver en montrant le milieu de la boxe, les difficultés pour un combattant qui est singulier, vraiment très singulier, de s'y imposer. Et au fil de la vie de ce boxeur, la bande dessinée nous entraîne dans trois milieux et dans trois contextes historiques qui sont très bien reconstitués. Le Panama du début du XXe siècle, qui
est le lieu de naissance de
voilà, de qui est le héros. Contexte de l'enfance du futur boxeur, qui est un monde entre deux Amériques, qui est le monde mêlé, où il montre le monde mêlé de la vie des dockers, des marins, des gamins qui s'amusent et qui se battent dans la rue, et qui observent les marins qui eux-mêmes se battent et font des combats de boxe. Ensuite, le New York des années 20, où le boxeur, qui s'est déjà imposé au niveau national au Panama, vient continuer sa carrière, puisque à l'époque comme aujourd'hui, il y a une nécessaire transnationalisation des carrières qui est indispensable pour entrer sur le marché des combats, pour accéder aux championnats du monde, qui est déjà à l'époque, comme nous le montre la bande dessinée, complètement dominée par les managers états-uniens, même si le monde de la boxe est très diversifié. Et donc, il nous montre le Harlem des années folles, qui est un milieu d'effervescence culturelle, un lieu de développement de la culture noire américaine, très originale, avec une très grande liberté, où tout est mélangé, la boxe, le jazz, les milieux interlopes, l'alcool, les Paris, la drogue, etc. Et puis ensuite, troisième milieu, on a le Paris de la fin des années 20 et des années 30, nouvelle étape de la carrière du boxeur, où la bande dessinée nous explique que le boxeur est venu rechercher aussi plus de liberté qu'aux États-Unis, où il est venu échapper aux pesanteurs et aux discriminations de la société nord-américaine. Et ce milieu nous est montré vraiment comme un milieu très mélangé, mais où les discriminations sont quand même là.
Et discrimination raciale, évidemment, mais aussi discrimination sexuelle.
Et donc, on retrouve dans cette bande dessinée ce qui fait toujours partie des analyses de la boxe produites par la littérature, par le cinéma ou par les sciences sociales, c'est-à-dire les enjeux de classe pour des boxeurs qui sont très majoritairement issus de catégories populaires laborieuses, la question raciale, enfin la question ethnique et raciale, avec les barrières ethniques et raciales qui restent toujours là, et la question du genre, puisqu'on est là dans un monde qui est exclusivement masculin, où s'imposent et se construisent sans doute les canons de la virilité contemporaine.
Voilà, donc ça s'appelle Panama Albron, de Alex Hinker et de Jacques Goldstein. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Isabelle Landonna?
Alors après cette brillante analyse de Caroline, je ne sais que dire, sinon que... En tant que pauvre médiéviste, non, bon, bien sûr, je partage tout ce qu'elle vient d'analyser parfaitement. Je pense que pour peut-être nos auditeurs, ce qu'il faut rappeler, c'est le caractère complètement exceptionnel du personnage, hein, qui n'a pas vraiment appris à boxer, mais ça c'est assez banal, mais surtout qui s'entraîne assez peu et qui a une droite fulgurante qui fait qu'il met KO ses adversaires en deux temps, en trois mouvements. Donc et surtout, c'est un personnage multitalentueux et c'est peut-être ça qui fait la spécificité par rapport à ce que Caroline vient de décrire de trajectoires qui par ailleurs sont connues, de boxeurs qui sortis de rien montent au sommet, championnat du monde, etc., et puis brûlent la vie par tous les bouts et redescendent dans le caniveau en quelque sorte et font des fins tragiques. Et donc moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette bande dessinée, parce que je confesse que j'ignorais tout de Panama Al Brown, c'est d'abord la destinée individuelle de cet individu qui est à la fois boxeur extrêmement talentueux, danseur, musicien,
saxophoniste,
chef d'orchestre.
Et ce boxeur qui vit sur un malentendu parce qu'il n'aime pas
boxer. Il a horreur de boxer et du reste, dans la BD et dans ce que j'ai lu par ailleurs, on montre bien que c'est quelqu'un qui boxait comme il dansait en quelque sorte, qu'il avait un jeu tout à fait spécifique. Alors par ailleurs, parmi les moments forts de la bande dessinée qui... Quand on ouvre l'ouvrage, vous agresse un peu. Il faut dire peut-être à nos auditeurs que c'est du noir et blanc et avec un dessin très acéré, très vivant aussi, enfin très mobile. Donc c'est un petit côté fatigant au début et puis finalement on est pris, je trouve, par ce dessin. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est tout ce qui est raconté autour de l'épisode à Paris. Cocteau, Coco Chanel, qui essaye de le sortir à un moment des turpitudes dans lesquelles il est retombé, l'opium, l'alcool, etc., etc., qui le met au vert, hein, comme on dit. C'est Coco Chanel qui finance, entre autres, et puis qui le font remonter sur le ring pour reconquérir son titre. Et alors, ce lien avec Cocteau, hein, et probablement la relation amoureuse qui allait avec, est assez intéressant parce que le début du livre, en réalité, part de ce point. part de l'entrée
de Cocteau à l'Académie française,
et d'une sorte de damnatio memoriae autour du personnage, et le journaliste qui est censé mener l'enquête finalement découvre quelque chose dont il ignorait tout, de même que moi quand j'ai ouvert la BD.
Delphine Diaz, à propos de ce Panama Albrand de Alex Hinker et de Jacques Goldstein, c'est Sarbacane.
Je partage totalement l'enthousiasme qui a été exprimé tout à l'heure, puisqu'effectivement, c'est une bande dessinée qui nous permet de circuler dans les lieux, dans la chronologie de l'itinéraire assez complexe d'Al Brown, qu'il faut suivre, puisqu'il y a beaucoup de retours en arrière, de flashbacks dans le courant de la BD. Ce qui m'intéressait en effet, c'est aussi comment ça reflète à la fois cette mode de la boxe dans les années 1930, et dans l'entre-deux-guerres plus largement, et puis une mode qui va aussi s'appuyer sur l'admiration de ces boxeurs noirs, même si ça ne commence pas dans les années 30, mais un peu plus antérieurement. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est tout comme Isabelle Landonna, c'est le passage sur la vie nocturne parisienne, sur la rencontre avec Cocteau, même si ça aurait peut-être un peu plus développé, puisqu'on reste un peu sur sa fin de ce point de vue, peut-être.
Oui, c'est vrai, Nietta.
Alors, il y a aussi cette problématique de l'exploitation des managers. Caroline en a un peu évoqué, donc des managers blancs cherche à se faire de l'argent, parce que lui, finalement, le Brown, c'est un grand champion, mais on a compris qu'il flambe. Hein. Il flambe son argent, mais il en gagne pas tant que ça, proportionnellement à son manager. Et puis, le racisme aussi du public. Lui qui vient d'Amérique, en France, pour échapper, entre guillemets, peut-être à la ségrégation, on voit bien le public qui le traite de sale nègre, singe au grand bras, enfin la violence que génère le fait que ce champion de boxe soit noir. Et puis, alors, on n'a pas dit qu'il y a une annexe à la BD, assez classique maintenant dans ce qu'on appelle les romans graphiques.
Oui,
alors, un historique, qui est intéressant, mais en même temps, qui est peut-être un petit peu caricatural dans sa manière
de présenter des choses. Très intéressantes.
Il y a très belles photos. Et là, est évoqué dans l'annexe, mais pas dans la BD. Ça, c'était intéressant. Griol, c'est-à-dire comment Holbrown, avec un combat au Cirque d'Hiver, finance la première expédition française en Afrique de Griol et de Léris. Voilà. Ouais. Donc
et d'une certaine façon à l'origine de l'Afrique fantôme, sans véritablement l'avoir voulu. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on aurait bien voulu retrouver dans la bande dessinée, qu'on ne retrouve pas forcément. Alors tout de même, cette question de l'homosexualité, elle est présente tout de même dans cette histoire, puisque déjà alors qu'il est au Panama, il a des amours homosexuels, donc Panama
Almond.
Sur la plage, voilà. Et donc, il y a aussi cette dimension qui est une dimension supplémentaire de son itinéraire. C'est-à-dire que dans un milieu où la virilité, effectivement, est affirmée par la force de ses poings, eh bien, on peut dire que Al Brown tranche un peu sur les autres boxeurs de son époque. Et cela va évidemment lui provoquer quelques ennuis, Delphine Diaz.
Oui, de même que c'est un boxeur malgré lui. Il le dit, il n'aime pas la boxe. Il a ce don, mais ce n'est pas vraiment un véritable désir pour lui que de boxer. Et il y a effectivement cette homosexualité qui va être aussi pour lui un frein à sa carrière, et parfois effectivement la source de nombreux colibés, d'agressions. On le voit notamment à travers le discours du chauffeur de taxi qui rapporte donc les insultes dont il faisait l'objet. On le traite de pédoc. Donc voilà, ce racisme se couple effectivement avec cette homophobie importante dont rencontre la BD ici.
Et cette fascination aussi de Jean Cocteau pour ce corps extrêmement sculpté. On est tout à fait dans l'exotisme, le même d'une certaine façon qui peut s'appliquer sur Joséphine Baker dansant à la même époque, en l'occurrence. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Doki?
Alors, je voulais rajouter peut-être deux choses. La première, c'est qu'on vient de parler de Léris. En fait, il y a un lien assez fort entre la boxe, l'écriture par les romanciers, les cinéastes, le reporter sportif, qui est une figure de la bande dessinée, et aussi l'ethnographe, Léris, dans les années 30. Et il y a des travaux d'ethnographie extrêmement bien écrits sur la boxe. Notamment, il faut rappeler le travail de Loïc Vacan, Corps et âme, Instagram, mm-hmm. carnet ethnographique Absolument. D'un apprenti boxeur, où Loïc Vacan, c'est lui-même...
C'est à Chicago, c'est ça, ça se
oui,
passe.
Oui, voilà, c'est ça, dans les gymnases de Chicago. Donc, voilà, il y a un lien entre la boxe et l'ethnographie aussi. Et puis, la deuxième chose, peut-être, que je voulais dire, c'est, en fait, cette bande dessinée, elle fait le récit d'un individu particulier et spécifique, mais c'est quand même le récit d'une vie de boxeur avec ses passages canoniques. Mm-hmm. Comment un gamin de la rue devient boxeur? Donc là, c'est l'enfant malingre et souffre-douleur des caïds de la rue qui un jour décide de se défendre et qui apprend la boxe. Et c'est canonique. Mohamed Ali a toujours mm-hmm. expliqué que c'est comme ça qu'il s'était mis à apprendre la boxe, parce qu'on lui avait volé son vélo et qu'il voulait corriger les voleurs de la rue d'à côté. Et puis ensuite, le récit canonique, c'est comment en réalité on fabrique un boxeur et un champion avec ce milieu de la boxe, le marché des combats et des championnats nationaux et mondiaux, le rôle des entraîneurs, le rôle des managers, le rôle des soigneurs. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de soigneurs mm-hmm. dans cette bande dessinée.
Oui, mais ses adversaires, adversaires KO en 3 secondes. Donc,
les managers,
pas grand monde à soigner.
Les managers qui décident tout, qui décident du calendrier, qui engrangent les profits, qui organisent le système des paris. Et donc, en fait, ce que nous montre aussi cette bande dessinée, c'est un milieu, c'est un marché qui confine à l'affairisme ultra-libéral, où il n'y a aucune règle, où c'est plein de corruption. Et donc, c'est comme ça qu'on peut à la rigueur critiquer ce milieu de la boxe, et pas en disant, comme c'est fait dans l'annexe, que c'est un esclavage, parce que ça, c'est une manière, en fait, de cadenasser l'interprétation de manière trop caricaturale.
Oui, et Isabelle Landenat, vous qui êtes spécialiste des vies de saints médiévales, en l'occurrence, c'est un peu une vie de saint aussi.
Il y a, oui, voilà. Il y a un petit côté agiographique.
Agiographique, oui,
absolument,
effectivement.
Je suis tout à fait d'accord, j'allais le dire du reste. c'est-à-dire, bon, Caroline a tout à fait raison, hein, sur le caractère comme ça, un petit peu emblématique par rapport à une carrière de boxeur. Moi, ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est le caractère exceptionnel de l'individu. Et là, on retombe sur la sainteté, si je puis dire, avec une fin quasi martyr. Ouais, enfin, voilà, il finit dans le caniveau à Harlem. Et puis, ce que nous dit l'annexe, mais que la BD ne traite pas, c'est cette chose qui est à la fois terrible et assez drôle d'une certaine manière, c'est que quand il meurt dans un hôpital, on récupère son cadavre, des gens qui sont passés pour sa famille, et puis font la tournée des bars pour dire « donnez-nous de l'argent pour enterrer ce pauvre homme », et en réalité, ils lâchent le cercueil au milieu de la rue et ils vont boire ce qu'ils ont récupéré. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plus frappé dans cette affaire, c'est le destin exceptionnel de cet individu qui est présenté, alors après à tort ou à raison, hein, comme quelqu'un qui fait de la boxe, comme il respire, enfin. Mm-hmm. Et quand il cesse quand il tombe dans l'alcool et tout ça, on le remet sur pied assez rapidement.
Et ça redémarre.
Et il monte sur le ring avec sa bouteille de champagne.
Voilà, il monte. Alors, il a la bouteille de champagne là où il est censé avoir de l'eau. Et voilà, il fume. Enfin bon. Et donc, ce qui est exceptionnel de mon point de vue, c'est plutôt non seulement le fait que ce soit un boxeur homosexuel, mais vraiment ce talent de musicien, de danseur, de chef d'orchestre.
Delphine Diaz, un dernier mot sur
Panama Albrun. Oui, ça reprend tout le mythe qu'a construit aussi Cocteau autour de ce personnage, hein, puisqu'il le décrit comme une sorte de poète, de mime, de danseur, de magicien, je reprends ces mots, qui transporte entre les cordes la réussite parfaite et mystérieuse d'une des énigmes humaines, l'énigme de la force. Donc, ce qui permet
c'est aussi un objet littéraire.
Il a écrit un poème, Cocteau, qui est inachevé, enfin, qui n'a pas été publié du vivant de Cocteau, qui a été retrouvé au lendemain de la revanche d'Al Brown, quand il reconquiert son titre mondial, qui s'intitule La Balance, et qui est un poème qui n'est pas inintéressant.
Voilà, donc ça s'appelle Panama Albrun, c'est sorti chez Sarbacane et c'est signé Alex Inker et Jacques Goldstein.
Where the long white road will lie, and the song stirs in the silence as the winding of the boughs above. She listens and starts and trembles. Is the forest little song of love? Shining in Picardy, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you.
Roses of Picardy, un titre interprété par John McCormack que l'on retrouve dans le premier roman, puisque c'est son premier roman, de Laurence Campa, spécialiste de littérature et en particulier co-auteur d'une très belle exposition, c'était l'année dernière, à l'Historial de Péronne, consacré aux écrivains dans la Première Guerre mondiale. Son roman s'appelle Colombe sous la lune, il est publié chez Stock. On y trouve les aventures d'un petit groupe de soldats, le lieutenant Eugène Thomas, Dupré, Pascal, un ex-marin qui est allé faire le coup de feu en Chine auparavant du côté de Port-Arthur, un autre ex-marin qui dirige cette petite brigade qui s'appelle le Commodore, mais il y a aussi Siméon, Dupuis, Berthier et trois ou quatre autres qui sont donc enterrés, pourrait-on dire, dans leur tranchée de la Somme. C'est pour ça qu'on entend ces Roses of Picardy. Après, pour le lieutenant Eugène Thomas, avoir combattu en Champagne. Alors c'est un roman qui est presque une sorte de huis clos en plein air, pourrait-on dire, puisqu'on se situe dans ce petit espace, ces boyaux et ces endroits où ils dorment, donc de la Somme dans les années 1916, visiblement. Et Laurence Campa veut rendre dans ce roman justement ce qu'était à la fois cette promiscuité, mais aussi l'intention de rêver ailleurs et de toujours être là où on n'est pas, en pensant à ceux qui vous ont abandonné ou qui sont à l'arrière en particulier. Et cette fameuse colombe qui, sous la lune, revient toujours dans les rêves et même les cauchemars de ce lieutenant Eugène Thomas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman, Delphine Diaz?
Alors, j'ai trouvé que c'était un roman bien écrit, qui donc raconte les tribulations de ce lieutenant Eugène Thomas qui s'engage dans les combats en 1914, qui précède l'appel et qui raconte donc sa grande guerre, depuis la Champagne jusqu'à la Somme. Et un roman qui va au-delà du récit de Poilu, même si on en a quand même tous les éléments assez classiques. Mmh. Hein, on a la tranchée, les conditions d'hygiène terribles, les rats, la poussière, enfin, finalement, tous les éléments assez attendus qu'on pouvait espérer d'un roman sur 14-18. Mais ce qui m'a plus intéressée, je pense, dans le roman, c'est plutôt effectivement tout ce qui nous rattache à la vie d'Eugène Thomas avant la guerre, peut-être, et notamment sa vie sentimentale, comment il va rêver sa relation avec cette fameuse colombe qu'il attend, alors même qu'elle est déjà fiancée avec un autre homme au début du conflit, et donc qui finalement se mariera avec cet homme après l'armistice, donc négligeant totalement la relation rêvée que le héros avait tissée avec elle. Et cette vie sentimentale, donc avec cette colombe imaginée, avec également la présence d'un personnage masculin, celui-ci, Félix, qui contribue un petit peu à troubler les rapports de genre, puisqu'il y a peut-être une certaine ambiguïté dans l'amitié qui se tisse avec le héros. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est peut-être davantage aussi la vie d'après, comment le héros donc souffre de terribles blessures, là aussi rien que de très classique dans un roman sur les guerres de tranchées, mais également comment finalement il est enfermé dans une sorte de vide communicationnel, il peut plus entrer en relation avec d'autres, il a des difficultés de retour à la vie civile qui elles aussi donc finalement peuvent s'entendre dans un contexte historique plus large. Donc voilà, c'est plutôt effectivement cette vie sentimentale et la vie d'après que j'ai trouvé bien.
Oui, effectivement, cela nous rappelle effectivement qu'il y a déjà eu la chambre des officiers ces questions effectivement de gens qui ont été durement blessés pendant la Première Guerre mondiale et plus récemment effectivement le prix Goncourt Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, et il y a certaines séquences qui peuvent nous faire penser effectivement ces séquences en particulier d'enfouissement des gens sous les marmitages donc allemands qui peuvent nous faire penser un peu à ce Pierre Lemaitre. À ce roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. Séverine Attard, qu'est-ce que vous avez pensé de Colombe sous la lune de Laurence Campa?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Delphine Diaz. La seule chose, c'est que je me demande, on a parfois l'impression qu'elle fait un exercice littéraire, quoi. C'est-à-dire qu'on part dans des descriptions très oniriques, avec beaucoup de vocabulaire, de qualificatifs. Et
la clarté cruelle, les rayons fourbes de la lune, le teint blême ambré de barbe folle d'un personnage, la clarté aqueuse.
C'est foisonnant.
Une expression reprise d'ailleurs à un roman de Sylvie Germain, mais on a tout à fait le droit de reprendre quand on les aime, les expressions que l'on a trouvées les plus intéressantes, le demi-jour douteux ou encore les pieds empesés de vase blême. Beaucoup d'adjectifs d'ailleurs qui sont censés nous redonner le ton de ce brouillard de Picardie dans lequel sont empêtrés, pourrait-on dire, ces héros, le blême, la lumière cruelle de la lune, etc.
Mais en même temps, nous avons accédé à une sorte de poétique.
Oui, on va dire, parce que lui, poétique.
Voilà, lui rêve, donc voilà, on accède à ce monde-là, ce monde, son monde à lui, pour oublier qu'il est voilà dans la souffrance, voilà. Mm-hmm. Donc bon,
point de suspension. Sans... qui peut-être sont aussi une manière Isabelle de Lordana. Signifier typographiquement le registre dans lequel l'auteur Laurence Campa entend se situer. Moi, je suis assez d'accord avec eux. On va être souvent d'accord ce matin, c'est pas drôle. ce qu'a dit Delphine. J'ajouterais à la liste du début qu'elle a mentionné, la camaraderie, qu'on a peu évoquée, parce que finalement, ce qui peut-être est assez intéressant dans ce roman, c'est comment les liens entre les uns et les autres se nouent, notamment à travers le récit de leur vie passée, de leur rêverie, etc. Et puis, c'est vrai que moi aussi, j'ai été peut-être plus intéressée par la fin du livre, le retour chez la grand-mère, les objets, etc. Bon, voilà. C'est vrai que c'est un roman, comment dirais-je, qui visite à nouveau quelque chose qu'on connaît bien et dont on voit les effets d'ailleurs depuis 2014, depuis qu'on est entré dans les célébrations. Voilà, ça se lit. C'est vrai qu'il y a des expressions poétiques, on va dire, il y a beaucoup de mots.
en l'occurrence, qu'est-ce que vous en avez pensé, Caroline Doki?
Dans un domaine où il y a beaucoup de livres, beaucoup de films, ça a été dit plusieurs fois juste avant moi. Moi, j'étais intéressée par. J'ai eu le sentiment que ce livre, c'était aussi une métaphore de l'aveuglement, puisque le héros à la fin ne voit plus rien. Mmh. Et moi, j'étais perdue parfois dans le livre. Je me disais bon, peut-être que je suis une lectrice pas assez attentive. Et
ça
puis,
peut être ça.
Et non, parce que vers la fin, enfin non, peut-être. Mais vers la fin, je me suis dit mais en fait, c'est ce que veut sans doute le livre, c'est-à-dire nous remettre dans l'esprit de ces soldats qui avancent à tâtons, qui ne savent pas où ils vont.
Oui. Ça c'est très réussi.
Voilà,
moi, je trouve,
voilà, c'est ça. Parce que c'est souvent, elle parle souvent de la nature pleine de brouillard, de réalité nébuleuse, on se perd un peu.
Et la ramure mordorée des chaînes.
Voilà, non mais ça restitue aussi peut-être l'intériorité de ces soldats qui avancent à tâtons, qui n'arrivent pas à faire le lien entre le passé, le présent, l'avenir, qui n'arrivent pas à penser leur avenir et qui ne cessent de ressasser finalement, bien sûr, le passé, alors avec des images idéalisées, les images idéalisées de la belle époque, il y a Montmartre, Montparnasse, le temps des colonies, le Tonkin, et en même temps, ils ne cessent de dire le regret de n'avoir pas été assez courageux dans la vie civile, de n'avoir pas eu le courage de vivre, de n'avoir pas assez aimé Colombe, et donc Colombe est partie.
En même temps, il est très jeune.
Et en même, oui, et mais justement, ça nous montre aussi comment la guerre a fait passer très rapidement, enfin, a été une transition pour ces jeunes gens, et puis ces jeunes gens, qu'ils soient hommes ou femmes, et qui les a confrontés très tôt dans leur jeunesse, finalement, à l'expérience de la limite avec la mort. Et peut-être que cette idée d'avancer à tâtons, d'aveuglement, c'est le côté réussi du livre.
Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est cet attachement que le peut avoir dans ce dénuement des corps et des esprits, pourrait-on dire, pour des petits objets. Il y a toujours effectivement cette question de ce que l'on fait des objets, de ce scarabée que votre grand-mère a pu vous donner ou que vous avez volé à votre grand-mère donc avant de partir, un scarabée d'ivoire, de cette balle que l'on peut garder par-devers soi parce que la boucle de Saturon a pu vous sauver justement de cette balle qui aurait sinon vous aurait tué. Et là, il y a quelque chose effectivement de ce fétichisme de l'objet qui vous ramène à la vie qui n'est pas la vie des tranchées elle-même, parce qu'elle vous dit que votre vie est fragile, Delphine Diaz.
Oui, il y a ce rapport aux objets, il y a aussi le lien avec l'écrit, puisqu'on les voit en train de, ces poilus en train d'écrire donc des carnets de guerre, ou on les voit en train d'écrire des lettres, ou d'attendre des lettres. Et là, bien sûr, ça nous renvoie à tous les travaux aussi très riches en histoire qui ont été menés sur l'épistolaire pendant la Grande Guerre. Je pense par exemple à la récente thèse de Clémentine Vidal-Naquet. Donc il y a tout ce rapport à l'écrit qui est intéressant. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le rapport au langage. C'est vrai qu'à travers les répliques des poilus, on a l'impression qu'on a toujours un petit peu le même langage finalement qui se met ici en place. Toujours une langue très 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 châtiée avec un voilà, je trouve avec un registre assez élevé par rapport parfois au grade des poilus en question, qui parlent finalement presque tous la même langue et qui ont parfois on a l'impression qu'ils ont un peu le même background culturel et ça me posait un petit peu problème. D'autant plus que si on pense à tout ce qu'a fait, par exemple, Barbus dans le feu sur l'argot des soldats, etc., là, on a une langue, finalement, qui est toujours assez homogène, selon les personnages.
De temps en temps, quand même, il y a certains personnages que l'auteur fait parler d'une manière plus incorrecte que d'autres, en oubliant les négations.
Oui. Et puis, il y a l'argot des tranchées, le gourbi, la cagna, le toubi. Oui.
Les blédards. Voilà. Et on trouve aussi, et ça, c'est peut-être effectivement intéressant, c'est intéressant dans le travail de Laurence Campa pour Colombe sur la Lune, l'imaginaire aussi d'une époque qu'on a peut-être oublié, par exemple, de s'imaginer être dans la tranchée comme Jeanne d'Arc prenant les tourelles, comme Jeanne entrant dans Orléans Reconquise, comme Jeanne flambant au bûcher, protégée par l'Esprit Saint aux ailes déployées. Et là, on voit bien effectivement que Peggy n'est pas loin, que l'on est effectivement dans une vision de l'histoire de France qui nourrit aussi cet héroïsme de ces combattants partant à la guerre, donc c'est on n'est pas très éloigné des travaux de Sylvain Venère sur l'esprit d'aventure qui aurait été détourné dans ces conquêtes coloniales. Adieu Colombe, c'est le prix à payer pour connaître le vrai visage de l'aventure, non celui des rêves et des livres, mais celui de la vie virile et du danger, écrit Laurence Campa à propos de cette aventure guerrière de ce soldat, donc de ce lieutenant Eugène Thomas. Un dernier mot sur ce roman de Laurence Campa. Voilà, ça s'appelle Colombe sous la lune et c'est paru chez Stock.
I would like Mr. Abdo to teach me.
But he's an Indian, Your Majesty.
And I am the Queen of England. I will have whatever help I require.
You've upset the order of everything.
Abdul has risen on his own merits. He too was a servant. Now, he's my friend. I haven't been as happy as this for years.
A gift from the Indian Empire.
What is it?
A mango. It's off.
Sir Henry, this mango is off.
Voilà la bande-annonce de Confident Royal, un film qui est sorti il y a maintenant une dizaine de jours sous nos écrans, et c'est un film signé Stephen Frears. Alors Stephen Frears poursuit, pourrait-on dire, un travail sur la royauté britannique, après avoir fait cet excellent film qui s'appelait The Queen, à propos d'Elisabeth II et de la mort de la princesse Diana. Nous revenons à la fin du 19e siècle, et vous nous présentez ce film, Séverine Yatar.
Et oui, on a une reine Victoria, ça se situe donc fin du 19e siècle, 1887 exactement, une vieille femme fatiguée, dépressive, qui souffre d'obésité morbide, elle le dit elle-même, et elle prend pour favori donc un jeune Indien musulman venu de Calcutta pour lui rendre hommage pour le jubilé, et il devient son confident, son professeur de langue. Il lui apprend donc l'ourdou, oral, écrit, donc il apprend cette langue à l'impératrice des Indes, qui est une élève et qui devient une élève assidue, disciplinée, et en retour elle le protège, elle le défend et elle élève même sa condition, problématique aussi souvent traitée par Frise dans ses films, puisqu'il va être décoré de l'ordre royal de Victoria. Alors cette histoire a été enterrée, oubliée, puis, et redécouverte donc par une journaliste indienne, Shrabani Basu. Et donc Frise à travers donc est partie de cet ouvrage de cette journaliste, et il fait une sorte de reconstitution méticuleuse. Alors à la fois des mentalités de la couronne, de la cour à cette époque, fin 19e, et puis il montre le mépris aussi évidemment de la cour pour ses sujets colonisés, et puis les jalousies qui vont se tramer évidemment autour de cette relation entre le jeune Abdul et la reine Victoria. Alors bon, voilà, il y a des on va parler un petit peu de ça, parce que il manque aussi sans doute dans ce film beaucoup de contexte et la réalité vraiment de la relation de l'Empire britannique avec ses colonies.
Oui, on peut dire que
la reine Victoria sort de ce film un peu comme la bienfaitrice.
Oui. Isabelle Landonna.
Alors, tiré de faits réels, pour l'essentiel, tel est l'exergue du film. Donc, nous allons pouvoir disserter sur faits réels et pour l'essentiel. Non, plaisanterie mise à part. Effectivement, Séverine l'a dit, il y a ce travail au départ d'une journaliste qui, se promenant à Osborne House, découvre des portraits. Je pense qu'on peut partir de là parce que c'est assez intéressant. Et notamment des portraits du peintre autrichien Rudolf Swoboda, qu'on avait vu ressortir au moment de, en 2015, de l'exposition sur les artistes et l'Empire à Londres, à la Tate Britain. Et cette journaliste se dit, mais quel est cet homme enturbanné, présenté richement? Et elle cherche et elle trouve. Elle trouve à la fois des journaux de la reine Victoria qu'on avait complètement oublié, que manifestement plus personne n'avait ouvert avant elle. Et d'autre part, elle retourne en Inde et elle découvre par un biais, un neveu, etc. Enfin bref, du dénommé Abdul Karim, le journal de Abdul Karim. Alors, ça, c'est disons le point commun finalement avec un peu Al Brown, c'est exhumer une histoire méconnue et en ce sens, la fiction nous permet d'accéder à des choses intéressantes. Maintenant, moi, j'ai trouvé que le film était à la fois, comment dire, paresseux, d'une certaine manière, paresseux, qu'il enfilait beaucoup de clichés, comme d'autres les perles, et surtout il fait une espèce de présentation politiquement correcte des enjeux géopolitiques de l'Empire britannique au prisme de Fénot. Les portes s'ouvrent, se ferment, on écoute aux portes, etc. Alors, ce que je crois, c'est que le film peut avoir une forme de drôlerie, évidemment, mais là, c'est complètement caricatural. Judith Bench est absolument parfaite en Victoria, obèse, grincheuse, qui retrouve le goût de la vie grâce à cet Abdul Karim. Mais en même temps, que de clichés, quoi. Les Écossais boivent, les Italiens sont précieux, Puccini est parfaitement ridicule. C'est le moins qu'on puisse en dire. Et donc, les portes s'ouvrent, se ferment, on tourne autour de la jalousie, et finalement, on nous réduit cette histoire de l'Empire, dont mes camarades parleront bien mieux que moi, à quelque chose de complètement insignifiant. Victoria défendant les droits de l'homme, ses sujets, etc. La cour raciste en diable, voilà. Et le dénommé Abdul Karim, parfaitement naïf, ce qui manifestement n'était pas le cas pour ce que j'en ai lu, notamment dans divers...
Caroline Douki, à propos de Confident Royal de Stephen Frears.
Je souscris à ce que vient de dire Isabelle Landonna. Bon, c'est un film qui présente l'intérêt de faire apparaître au grand jour pour le grand public la présence des élites ou des intermédiaires indiens comme une réalité culturelle et politique de l'Angleterre victorienne, y compris sur le sol sur le sol anglais. C'est une fiction qui joue sur l'histoire. Après tout, c'est parfaitement son droit, mais on n'y trouvera vraiment pas un traitement éclairant des enjeux historiques. Et il ne faut pas s'attendre à y trouver de quoi comprendre la réalité des rapports impériaux entre l'Angleterre victorienne et l'Inde.
Tous les gens qui rentrent dans cette salle de cinéma n'ont peut-être pas l'intention de découvrir la réalité des rapports impériaux en Bretagne.
C'est pas très grave.
On restait dans un registre un peu plus fin.
Voilà, c'est pas très grave. Après tout, là, c'est la fiction. Ouais. Hein, c'est pas
un cours d'histoire.
Mais alors, après, bon, c'est une comédie qui se présente comme une farce, qui moque la société de cour victorienne, qui montre l'envers du décor de l'Angleterre, qui a été la première puissance du monde au XIXe siècle. Et il y a des aspects corrosifs. On moque la société de cour, on moque l'étiquette, on moque le protocole, on montre le ridicule, tout le ridicule des intrigues de cour et en même temps tout ce que ça peut avoir de très sérieux. Il s'agit de se placer bien dans les hiérarchies du pouvoir. Est-ce que ça a de très cruel, puisque l'un des deux Indiens, deux Indiens qui sont venus, l'un des deux Indiens va mourir dans la solitude, dans le froid, et rejeté, etc.
Il est un peu plus revendicatif.
C'est celui qui est censé éclairer les rapports impériaux entre l'Angleterre et l'Inde. Mais en fait, toutes ces questions impériales sont très mal évoquées. Mmh. Et c'est un film qui ne reconstitue pas très bien, les décors, les scènes qui sont peut-être tournées en Inde. Je ne sais même pas si elles sont tournées en Inde, parce que on voit des décors de carton-pâte. On voit des, enfin, on voit le studio qui a fait les décors sur grand écran. Les représentations de l'Inde sont des représentations de cartes postales.
Ah, grave.
Et du coup, quand même, ça correspond pas au propos, je pense, du film, qui est de montrer que pouvait s'établir entre la reine et cet Indien des relations à part égale, parce que le film lui-même ne traite pas à part égale l'Angleterre et l'Inde, ou il ne traite pas avec soin les dialogues entre la reine et l'Indien. Les dialogues sont quand même assez ridicules.
Ah, ce qui est quand même très intéressant, je vais vous donner la parole, Delphine Diaz, à propos de ce confident royal, c'est de se poser la question, en ce moment où il y a toujours des débats dans le milieu des historiens en France sur quel récit national doit-on privilégier, de cette récurrence du cinéma britannique à s'intéresser à la question de son roi ou de sa reine, le discours du roi, The Queen évidemment, les Tudors à la télévision, ici encore, quasiment tous les souverains ou presque tous les souverains britanniques sont passés au prisme du cinéma ou de la télévision, ce qui évidemment n'est pas le cas chez nous. On n'a pas vu de grands films sur Clémenceau depuis longtemps, de grands films sur Napoléon depuis Abel Gance, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et donc on peut se poser cette question justement de quel récit les Britanniques construisent-ils autour de la figure royale, pourrait-on dire, Delphine Diaz?
Oui, à cette longue liste, j'ajouterai aussi la série The Crown, de production de Netflix, qui est pour le coup vraiment mieux, je trouve, aussi traité dans sa façon d'aborder la monarchie que le film de Stephen Frears, qui a eu un grand succès. Donc effectivement, il y a une inflation de toutes ces fictions autour de la monarchie britannique qui est intéressante. Alors moi, ce que j'ai trouvé effectivement dans le film, c'est qu'il y a un côté un petit peu manichéen, bien évidemment. On voit d'un côté une gentille reine Victoria antiraciste qui prend la défense de son serviteur indien contre une cour absolument atroce
et son fils, qui joue le rôle de
Bertie, donc le futur Édouard VII qui va prendre en grippe ce courtisan qui est Karim Abdul. Abdul Karim, pardon. Et ce qui m'a semblé intéressant malgré tout, du point de vue de l'arrière-plan historique, c'est quand même effectivement comment ce rituel monarchique va d'abord connaître aussi une inflation à partir des années 1880, et comment le film le représente, notamment à travers le grand banquet du jubilé de 1887. Qui a un côté un peu jubilatoire aussi, où on voit la reine Victoria en train de s'empiffrer,
salement,
même pas laisser le temps à ses courtisans de manger. Donc il y a des côtés assez bien traités, je trouve, de ce rituel monarchique qui s'alourdit particulièrement dans les années 1880, avec les jubilés, les couronnements, les funérailles, mariage princier, etc., ouverture annuelle du Parlement, etc. Donc là-dessus aussi, ce qu'on voit, c'est que finalement, la symbolique impériale est de plus en plus marquée. Et ça, le film aussi en rend compte, je trouve, puisqu'il nous montre aussi comment, l'Inde aussi va s'inviter dans les symboles de la monarchie britannique, dans les châteaux, dans les résidences royales. On voit la reine qui va transformer Osborne House avec une véritable salle indienne, qui est le Durbar Wing. Et de ce point de vue, je trouvais ça quand même malgré tout intéressant, comment aussi, d'un point de vue culinaire, on va introduire le curry, la mangue, à la faveur de la présence de ce serviteur indien, même si on peut se demander quand même si c'est pas plus général, que c'est pas seulement lié à la présence de ce courtisan, toutes ces différentes modes qui sont introduites à la cour de Victoria. Alors bien sûr, effectivement, il y a un côté, très manichéen, un petit peu,
film de boulevard,
théâtre de boulevard, happy end, même si effectivement la mort de Victoria se conclut aussi quand même par une expulsion du Munshi, hors de la cour.
Voilà, le Munshi, donc ce professeur qui est devenu Abdul Karim dans cette cour de Victoria.
Ourdou. Voilà, qui donc enseigne le ourdou à la reine Victoria, aux grandes dames de sa cour. Alors, moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, finalement, on ne parle pas beaucoup du personnage lui-même d'Abdul Karim.
Dès qu'il n'est plus en un plan, je suis désolé, c'est quand même beaucoup moins intéressant, même si le film ne l'est pas totalement, que quand Julie Dench Michela, c'est-à-dire qu'effectivement, elle écrase de son interprétation.
Elle est parfaite.
Voilà.
Elle est parfaite.
Et je trouve que le personnage
de Victoria, elle
l'incarne,
je trouve,
Ali Fazal.
On l'a fait jouer, enfin, je ne sais pas, c'est un artiste bollywoodien, oui. Visiblement très connu, très bel homme, etc. Donc, visiblement, ça correspond aussi un peu à ce qu'on a pu savoir de l'impression qu'avait fait ce très jeune homme, finalement. Hein, il a 24 ans quand il arrive à la cour, sur une Victoria vieillissante et obèse. Mais ce que je trouve d'autant plus dommageable dans le film, c'est qu'on nous le présente quasi comme un doux rêveur, un peu imbécile, enfin voilà, qui ne voudrait que du bien à la reine, et on gomme totalement quelque chose qui, je crois, enfin, je n'imagine pas, mais mes camarades me détromperont peut-être, que cet homme propulsé à la cour d'Angleterre n'ait pas eu quelque ambition. Et en réalité, la chose manichéenne...
Un arnaqueur, comme chez les films de frères Soucy.
Voilà, exactement, et donc c'est très manichéen, parce que l'autre indien, c'est celui qui incarne finalement un début d'indépendance, de conscience politique, et Abdul Karim, rien, quoi. Mais ce qui s'appelle rien. Donc, c'est quand même très, très, très embêtant, ça. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Caroline sur les histoires de décor. C'est-à-dire qu'il y a quand même, par exemple, il y a des scènes qui ont été tournées manifestement in situ dans le Durbar Room.
Oui, mais ça, c'est en Angleterre. Mais ce que disait Caroline, c'est à propos de l'Inde.
Je parlais de l'Inde. Je disais que vraiment, l'Angleterre.
C'est l'image de carte postale. On a le Taj Mahal. Voilà, donc c'est la carte postale.
Oui, donc les deux.
Oui, pardon, je croyais.
Les deux univers ne sont pas traités à part égale. Et on voit aussi avec ce qu'Isabelle Landonna vient de dire sur l'acteur bollywoodien aussi, qu'il n'y a pas eu de soin pour qu'il y ait qu'il y ait le choix d'un acteur qui incarne autre chose qu'un cliché un peu.
C'est sûr que Shah Rukh Khan aurait été plus intéressant que Ali Fazal.
Il aurait pu être dirigé différemment. Mais c'est un problème de direction d'acteur aussi.
Mais finalement, là où le film est le plus intéressant, c'est dans sa critique de la société de cour victorienne, avec cette reine qui se conduit comme une vieille dame indigne, et là c'est vrai que c'est très très drôle.
Je veux dire aussi, je pense que Fred, il avait quelque ambition aussi de parler de la société d'aujourd'hui, alors mais de manière alors extrêmement caricaturale. Alors l'allusion au burqa aussi, je sais pas si vous vous souvenez, donc à la fois qu'il fait allusion à un exotisme, mais en même temps la reine Victoria qui trouve ça plein de dignité. Enfin, voilà, on ne sait pas trop ce que Fraser voulait dire à travers cette scène. Mais...
Et le prince de Galles qui trépigne parce qu'il n'arrive pas à régner parce que sa mère a une grande longévité, je pense que c'est un coup d'œil au présent.
Merci. Donc, on a parlé donc de ce film Confident Royal de Stephen Frears, du roman de Laurence Campa, Colombe sous la lune, et de la bande dessinée de Panama Al Brown, donc de Alex Hinker et de Jacques Goldstein, paru aux éditions Sarbacane. Et comme tous les vendredis désormais, la nouvelle séquence qui clôt l'émission du vendredi, c'est « C'était à la une », composée à partir des archives de la Bibliothèque nationale de France de presse qui se trouve sur le site Retro News. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les mystères de l'Égypte ancienne, Lord Carnarvon et la découverte du tombeau de Toutankhamon.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Journal Le Siècle. 6 avril 1923. Lord Carnarvon, qui découvrit le tombeau de Toutankhamon, est mort cette nuit. Le pharaon s'est-il vengé? Il est inutile de rappeler ici les travaux qui ont fait récemment à Lord Carnarvon une réputation mondiale. C'est lui qui, aidé de Mr. Howard Carter, a mis au jour dans la vallée des rois le fameux tombeau du pharaon Toutankhamon, d'où on a extrait 100 merveilles. Quand on annonça la nouvelle de la maladie de Lord Carnarvon, certains égyptologues versés dans les sciences occultes affirmèrent que c'était une vengeance du monarque dont on avait troublé le repos éternel et conseillèrent à leurs collègues anglais de se méfier. Ce dernier avait été piqué par un moustique et cette piqûre pouvait bien ne pas être naturelle, d'autant plus qu'un fait de mauvais augure s'était déjà produit. Lord Carnarvon aimait tendrement un petit oiseau, un serin, et il l'emmenait toujours avec lui dans ses déplacements. Le serin était avec le lord lorsque celui-ci pénétra pour la première fois dans la tombe mystérieuse du pharaon. Et quelques jours après, le serin, dont on avait pendu la cage dans quelques coins, était à moitié dévoré par un serpent en un lieu où l'on n'avait jamais vu de reptile. Les fellahs manifestèrent à cette nouvelle la plus vive appréhension. Ce fut peu après que Lord Carnarvon tomba malade, et cette coïncidence parut singulière. L'égyptologue était-il la victime des divinités souterraines? Les forces occultes dont disposaient, dit-on, les prêtres de l'ancienne Égypte étaient-elles assez puissantes pour agir par-delà les siècles? La grande préoccupation des peuples de l'Antiquité était la protection des morts. Toutankhamon pharaon dut avoir des funérailles assez méticuleuses pour que les formules de malédiction lancées contre les violateurs de sépultures fussent récitées avec une attention scrupuleuse et un soin pieux par les sages prêtres qui en connaissaient les arcanes. Reste à savoir si ces formules n'étaient qu'un vain charlatanisme destiné à effrayer les contemporains sur qui les trésors enfermés dans les tombeaux aurait exercé une tentation trop forte, ou bien si elle renfermait véritablement un pouvoir magique. Le docteur Mardrus, pour qui ces choses de l'Orient ancien n'ont rien de secret, en est convaincu. Il croit à une vengeance du pharaon. Monsieur Lancelin, spirite notoire, partage cette opinion. Et avec eux, beaucoup d'autres, pour qui la mort de Lord Carnarvon apparaîtra comme la rançon de son audace. Les sceptiques souriront. Coïncidence, coïncidence. Les vieux dieux de l'Égypte sont morts depuis longtemps, et la momie de Toutankhamon n'a plus elle-même que la froide majesté d'une statue qui a su résister à la lente destruction des siècles. Lord Carnarvon est mort d'un accident. Il a eu le tort de mourir près de la vallée des rois, peu de temps après avoir violé la tombe d'un pharaon. Ainsi naissent les légendes.
Et voilà, je vous laisse donc avec cette lecture d'Hélène Losseur de ce texte de presse que vous pourrez retrouver sur Retro News si vous voulez aller sur ce site pendant le week-end pour découvrir les milliers et milliers d'articles qui sont numérisés de la presse depuis maintenant 2 siècles, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Je vous laisse avec cette idée de la malédiction des pharaons. Et nous en parlerons d'ailleurs peut-être la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous traiterons de l'histoire de la bande dessinée à l'occasion de la sortie en librairie du premier tome d'une longue série d'histoires de France de la bande dessinée, donc en bande dessinée. Et ce premier tome est signé Étienne Davodeau et Sylvain Venère, qui seront tous les deux nos invités, comme d'habitude, de lundi. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marseille, Jacques Hubert nous a accompagnés, était avec nous à la technique pendant toute cette heure, et Thomas Duterre était à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission si vous le souhaitez sur le site internet de France Culture, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, à lundi.